Radio Prague, les informations.
La direction du Parti chrétien-démocrate a apporté de nouveau son soutien à son président et vice-premier ministre Jiří Čunek, soupçonné de corruption. Nouveau tour des négociations entre l'administration du château de Prague et le chapitre métropolitain sur la gestion de la cathédrale Saint-Guy. Visite à Prague du ministre britannique délégué aux affaires européennes Jeff Hoon. La direction du Parti chrétien-démocrate KDU-CSL, un des trois partis de la coalition gouvernementale, continue à soutenir son président et vice-premier ministre Jiří Čunek, soupçonné de corruption. La quatrième formation politique du pays ne souhaite pas que son président démissionne des fonctions du vice-premier ministre et du ministre de l'Aménagement du Territoire. Rappelons que Jiří Čunek fait l'objet d'une enquête sur ses finances privées. Un pot de vin d'environ 16 000 euros lui aurait été versé en 2002 par une agence immobilière de Vsetín, ville dont il était maire à l'époque. Un nouveau procès entre l'État tchèque et l'Église catholique pour la propriété de la cathédrale Saint-Guy et les bâtiments adjacents au château de Prague sera ouvert devant le tribunal du 1er arrondissement de Prague le 3 mai prochain. Le litige se poursuit depuis déjà 14 ans. En été 2006, le tribunal municipal de Prague avait proclamé la cathédrale propriété de l'Église. Or, ce verdict a été annulé en février dernier par la Cour suprême. Une rencontre ce mardi des représentants du chapitre métropolitain et de la chancellerie du président de la République n'a apporté aucun résultat concret. La date de remise officielle de la gestion de la cathédrale à l'administration du château de Prague n'a pas été fixée. L'avenir de la Constitution européenne a été au cœur des entretiens mardi à Prague entre le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg et le ministre britannique délégué aux affaires européennes Jeff Hoon. D'après lui, lors des négociations sur la relance du projet européen, il faut prendre en considération la perception de l'Union européenne par ses citoyens. Le ministre de la Santé publique, Tomáš Julínek, du Parti civique démocrate, a révoqué les directeurs de trois centres hospitaliers universitaires en République tchèque, des hôpitaux Tomajerova Nemocnice et Nemocnice Královské Vinohrady à Prague et du centre hospitalier universitaire d'Olomouc en Moravie du Nord. Une mauvaise gestion de ces trois hôpitaux serait à l'origine de ces limogeages. Les postes des directeurs seront ouverts au concours de recrutement. Le joaillier et horloger de luxe Cartier ouvrira fin mars sa première boutique à Prague, sur l'une des avenues les plus prestigieuses de la capitale, Pařížská, l'avenue de Paris. La première marque de luxe mondiale qui a ouvert sa vitrine sur cette avenue était Louis Vuitton en 1997. Le festival Africon Création se poursuit jusqu'à la fin de la semaine à Prague et dans trois autres villes tchèques. Ce mardi, l'Institut français de Prague a organisé dans son cadre un café littéraire consacré au dramaturge et romancier congolais Sonny Laboutansi, décédé il y a 12 ans. Kaya Makele, l'écrivain et comédienne Marie-Léontine Tibinda et l'ancienne directrice du Festival international des francophonies en Limousin, Monique Blin, ont été les invités de ce débat. Côté météo, ce mardi, nous avons profité d'un très beau temps ensoleillé. Les températures ont grimpé à 15 degrés. Mercredi, le ciel sera nuageux. Il fera de 11 à 15 degrés. Nous fêterons les Tomáš en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Le premier ministre tchèque Mirek Topolánek s'est entretenu à Bruxelles, entre autres, de l'éventuelle installation d'un radar américain sur le territoire tchèque et de la Constitution européenne. Deux dossiers toujours très délicats. Entrée en vigueur de la charte des langues régionales ou minoritaires. Projet de soutien à l'emploi des Roms tchèques. Entretien avec le réalisateur polonais Rafael Lewandowski, qui a participé au festival du film sur les droits de l'homme Jeden Świat, One World. Tels sont les grands thèmes de cette émission préparée pour vous par l'ensemble de la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le premier ministre Mirek Topolánek était en visite à Bruxelles lundi et mardi. Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le chef du gouvernement a rencontré le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. Au programme des discussions, deux dossiers épineux qui divisent la classe politique tchèque, le processus de ratification de la Constitution européenne et l'implantation d'un radar américain en République tchèque. Guillaume Narguet.
Pour sa première dans la capitale de l'Union européenne, Mirek Topolánek a tenu à rassurer son auditoire en annonçant que la République tchèque ne ferait pas obstacle aux prochaines négociations relatives à la relance du projet de constitution européenne. Bien que venu à Bruxelles avec des intentions constructives, donc, le leader du Parti civique démocrate, formation de droite plutôt hostile au projet constitutionnel, a toutefois précisé que les Tchèques n'étaient pas favorables à un accord coûte que coûte et qu'ils n'étaient pas spécialement pressés. La qualité du nouveau document est plus importante que le temps, a-t-il ainsi ajouté. Des propos qui ont visiblement suffi à satisfaire le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, n'appréciant guère les prises de position eurosceptiques du président tchèque Václav Klaus. L'implantation sur le territoire tchèque d'un radar américain, s'inscrivant dans le cadre du système de défense antimissile que Washington souhaite installer en Europe centrale, constituait l'autre sujet délicat abordé par Mirek Topolánek. Et le Premier ministre s'est voulu très ferme. Je n'ai pas le sentiment qu'un des 18 États membres de l'Union européenne qui possède déjà une base américaine sur son territoire ait à s'exprimer sur un projet semblable sur le territoire tchèque, a-t-il ainsi déclaré. En guise de réponse, le secrétaire général de l'OTAN a assuré au chef du gouvernement tchèque qu'il s'agissait là de négociations qui ne concernaient que les États-Unis et le pays sollicité.
Le 1er mars, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui doit assurer la protection des langues des minorités ethniques, est entrée en vigueur en République tchèque. Le document profitera notamment aux minorités polonaises et slovaques. Les minorités concernées pourront désormais, sous certaines conditions, s'adresser dans leur langue aux fonctionnaires de l'administration publique et aux tribunaux et pourront rédiger dans leur langue aussi des documents administratifs. D'après le secrétaire de la Commission gouvernementale pour les minorités, Milan Pospíšil, cité par l'agence CTK, cela concerne notamment la langue polonaise dans les communes de Moravie du Nord et de Silésie, où la minorité polonaise dépasse 10% de la population, mais aussi la langue slovaque, sur tout le territoire de République tchèque. Néanmoins, Milan Pospíšil constate que l'adoption de la charte ne change pas beaucoup de choses, car le document n'a été ratifié qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les écoles et du nouveau code d'administration, qui stipule déjà la protection des langues minoritaires. Les noms des rues et les enseignes de magasins en deux langues sont d'ores et déjà une chose assez courante dans des communes de la région des villes de Karvina et de Fridegmistek, situées dans la région frontalière au nord-est de République tchèque. Cette année encore, 5 millions de couronnes, quelques 180 000 euros, seront mises à la disposition des communes concernées en Moravie du Nord et en Silésie pour qu'elles puissent se doter de ces doubles inscriptions, mais aussi pour payer des interprètes et des traductions des documents officiels. Et il existe aussi une possibilité théorique que les doubles inscriptions apparaissent le long de la frontière tchécoslovaque dans les endroits où les Slovaques dépassent en nombre 10% de la population locale. Cependant, selon Milan Pospíšil, pour l'instant, aucune revendication de ce genre n'a été entendue. Les membres de ces minorités doivent avoir également la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles polonaises et slovaques, et on devrait leur réserver une station de radio, une chaîne de télévision et la possibilité de publier leurs articles dans les journaux. La majorité de ces avantages ne concerne cependant pas la minorité rome. Bien qu'on estime qu'il y a en Tchéquie quelques 250 000 Roms, lors du dernier recensement de la population, on n'a enregistré que 11 000 personnes qui ont déclaré appartenir à cette minorité. Officiellement donc, la population rome en Tchéquie n'est pas suffisamment dense pour jouir des mêmes avantages que la minorité polonaise et slovaque. Le projet de soutien à l'emploi des Roms qui vivent sur le territoire de la capitale tchèque Prague a été officiellement lancé par l'association civique rome Velká Ohrada. Jirka Gisiblova pour plus d'informations.
L'objectif du projet est de stopper la chute sociale des Roms défavorisés sur le marché du travail et de les aider à trouver un emploi. Un moyen pour y parvenir, des cours de recyclage. Un élément nouveau dans ce projet, le service apporté par l'assistant conseiller qui accompagne le client depuis le début des cours, lors de la recherche d'un emploi pendant le travail jusqu'à la fin du contrat. La durée du projet est de 18 mois. Il est financé à 70% par les fonds sociaux de l'Union européenne, qui est également le donateur d'aide à d'autres projets en cours en République tchèque, destinés à empêcher l'approfondissement de l'exclusion sociale des Roms. Selon une étude réalisée en 2006 par la société GAC, sur commande du ministère du Travail, il existe en République tchèque plus de 300 localités pauvres dégradées en dehors de la société. Sociétés majoritaires dans lesquelles vivent jusqu'à 80 000 Roms. Pourquoi des projets spéciaux pour Roms ? Puisque c'est une minorité spécifique, en tant que telle, elle a besoin d'une approche spécifique. Résume Stania Ondova, coordinatrice d'un projet semblable déjà en cours en République tchèque baptisé Romea. Romea est venue avec une initiative intéressante, une bourse à l'emploi sur Internet. Ces activistes recherchent eux-mêmes les postes convenables et sélectionnent les offres pour qu'elles correspondent aux possibilités des candidats roms. Il s'agit en principe de professions ouvrières, de celles qui exigent une habileté manuelle, qui conviennent le plus aux gens sans formation, dit Tania Ondova. Le projet Romea est venu encore avec une nouveauté, la personne de l'activiste social rome, qui travaille sur le terrain et qui aide les familles en difficulté sociale ou celles dont les membres n'ont qu'une formation élémentaire. Le coordinateur du projet, Vojtěch Lavička, explique pourquoi ces activistes sont utiles.
Le Rom qui vit dans un ghetto ou au plus bas niveau social n'a pas accès aux informations, ne sait pas utiliser Internet et ignore quelles sont ses propres capacités. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé comme terrassier peut devenir vannier, peindre, faire des choses dont il n'a jamais pensé qu'elles puissent l'aider à gagner sa vie et à sortir de sa situation difficile.
L'expérience de la ville de Nový Bydžov témoigne du fait que les projets de soutien à l'emploi des Roms peuvent porter leurs fruits. 10 participants sur 12 ont terminé avec succès les cours de recyclage. Les hommes dans l'industrie du bâtiment et comme chauffeurs de camions et de tracteurs, les femmes comme cuisinières. Ils ont tous trouvé un emploi et continueront à travailler même après la fin du projet.
Le festival Jeden Svět, One World de films documentaires est devenu en 9 ans un événement incontournable dans le calendrier culturel pragois. Plus d'une centaine de films projetés, suivis parfois de débats avec les réalisateurs. Parmi les films en compétition cette année, Les Enfants de Solidarność du réalisateur franco-polonais Rafael Lewandowski qui a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Le film raconte quatre histoires d'enfants de militants de solidarité, de Solidarność, quatre enfants qui sont nés environ avec ce mouvement, c'est-à-dire qui sont nés à la fin des années 70, début des années 80.
Je ne vais pas citer Paul Nizan, mais on sait que 20 ans, ce n'est pas facile tous les jours. Est-ce que c'est encore plus difficile, selon vous, et après le tournage de ce film, d'avoir la vingtaine quand on est dans un pays post-communiste et quand on est enfant de leader de la dissidence?
Quand j'ai commencé à faire ce film, j'avais plutôt des a priori assez optimistes, tout en ayant peur de ne pas trouver facilement les personnes dont j'allais pouvoir faire le portrait. Première surprise, c'était de trouver très rapidement des personnages qui avaient envie de parler de tout ça. J'ai découvert à travers cette envie qu'en fait il y avait un manque, qu'ils n'avaient pas assez raconté cette histoire, et peut-être que entre les parents et les enfants, il y avait eu plein de choses qui n'avaient pas été dites, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps depuis 1989, emportés dans les transformations de leur vie à la fois privée et publique, de créer un mythe autour de cette histoire. Est-ce qu'il est plus dur d'avoir 25 ans en Pologne qu'en France? Je ne sais pas. Je note simplement que la génération polonaise qui est née à l'époque. Donc il y a eu une sorte de baby-boom, c'est-à-dire qui est très nombreuse en ce moment en Pologne, dispose d'une énergie incroyable, dispose aussi d'une liberté dont leurs parents ne pouvaient que rêver et pour lequel ils se sont difficilement battus. Par contre, le paradoxe veut qu'ils ont d'énormes difficultés à se trouver dans cette société, à trouver leur place pour des raisons économiques, parce que la Pologne a accompli après 89 des changements radicaux par rapport à la République tchèque. Les changements se sont faits pratiquement en quelques mois avec le plan Balcerowicz. Donc forcément, il y a eu des répercussions sociales très très lourdes dont on paye encore aujourd'hui le fruit, ou les conséquences plutôt. Et puis, pour des raisons politiques, parce que malheureusement, comme vous le savez sans doute, la situation politique en Pologne est pas très réjouissante. Il y a une sorte de retour en arrière par rapport aux libertés, par rapport à la tolérance, par rapport à des tas de choses. La coalition au pouvoir est une alliance de ultra-conservateurs, d'extrême droite et de populistes. Malheureusement, ces jeunes Polonais émigrent en masse. C'est-à-dire que depuis que la Pologne est entrée dans l'Union européenne, on estime qu'il y a environ entre 1 million et 2 millions de jeunes Polonais qui sont partis tenter leur chance ailleurs, donc notamment en Angleterre et en Irlande, puisque ce sont les deux pays qui ont ouvert tout de suite leurs frontières.
Angélique Marquise des Anges n'a pas dit son dernier mot. La popularité en Tchéquie de cette héroïne des romans d'Anne Golon et de la série de films réalisés par Bernard Bordery est un phénomène qui mérite une étude sociologique. Angélique, incarnée à l'écran par Michel Mercier, revient très régulièrement dans les foyers tchèques grâce à la télévision et on en redemande. Dans sa conquête du public actuel, Angélique ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, elle s'attaque à la comédie musicale. C'est pour ce mardi qu'on a préparé la première du spectacle Angélique Marquise des Anges au théâtre Broadway à Prague. 100 000 billets ont déjà été vendus et le producteur Oldřich Lichtenberg se félicite de ce record. On espère que la production atteindra 350 reprises. L'héroïne indomptable de l'époque de Louis XIV revivra grâce à la chanteuse tchèque Monika Absolonova. C'est elle qui rêvait de jouer Angélique au théâtre et c'est pour elle que le compositeur Michal David a créé la partition de ce spectacle en utilisant le thème de Michel Magne tiré de la bande sonore du film. Trois chanteuses, dont Monika Absolonova, joueront en alternance le rôle titre dans des costumes somptueux dessinés par Roman Scholz. Pour évoquer les fastes de la cour de Louis XIV et des harems orientaux, il a fallu créer 200 de costumes, dont 12 pour Angélique. Ces grandes robes d'apparat pèsent jusqu'à 10 kilos. Le spectacle a été monté par le metteur en scène d'opéra Józef Bednarik. Il le conçoit comme une histoire pour faire rêver les spectatrices. C'est un conte romantique pour enfants et adultes dans lequel nous avons réussi à évoquer l'atmosphère d'époque, dit le metteur en scène qui se demande quelle sera la réaction de la critique. Quoi qu'il en soit, il est évident que même la critique la plus sévère ne pourra pas vraiment influencer le public. Même si les artisans de cette production sont accusés de mauvais goût, cela ne pourra rien changer à l'engouement des spectateurs pour Angélique, héroïne qui leur permet d'assouvir leur fin d'histoire romantique. Fin de ce fait événement, une émission de Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas l'écoute, notre émission se poursuit.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où Google poursuit activement son projet de bibliothèque en ligne, les bibliothèques européennes tentent d'accélérer la numérisation de leurs fonds. La République tchèque fait partie des pays du continent les plus avancés dans ce domaine, la numérisation des documents ayant commencé dès la première moitié des années 90. Direction tout de suite la Bibliothèque nationale de Prague, lieu où se fait une bonne partie du travail.
Au dernier étage de la Bibliothèque nationale à Prague, une petite dizaine de personnes employées par une société privée numérisent une par une les pages des livres les plus anciens des fonds d'archives. Stjepan Černohorský est l'un des responsables du projet.
Nous nous spécialisons dans la numérisation des livres anciens imprimés avant l'année 1800. Plus de 2000 documents ont déjà été numérisés ici, ce qui représente presque 1 million de pages. La Bibliothèque nationale a en tout 7000 manuscrits et documents historiques dans ses fonds, donc la numérisation devrait encore durer un certain nombre d'années.
Parmi les bibliothèques nationales dans le monde entier, nous sommes l'une de peu de bibliothèques qui ont maîtrisé la numérisation. En Europe, je crois que c'est la Bibliothèque nationale de France qui est le numéro 1. Mais je crois que le numéro 2 ou 3, c'est la Bibliothèque nationale de la République tchèque.
Adolf Knoll, le directeur adjoint de la Bibliothèque nationale tchèque, peut s'estimer satisfait du travail accompli par cette institution dans le domaine de la numérisation, un travail qui est déjà venu récompenser un prix de l'UNESCO pour les efforts fournis en matière de conservation de documents et de leur mise à la disposition du public.
On a deux programmes de numérisation ici. Le premier programme concerne la numérisation des manuscrits, des cartes historiques et des matériaux très anciens. La seconde part, qui est plus récente, concerne la numérisation, la préservation des matériaux qui ont été imprimés en papier acide, c'est-à-dire surtout les périodiques, les journaux.
En nombre de manuscrits numérisés et mis à la disposition du public, la République tchèque occupe la première place du classement européen. Une fierté pour ce petit pays, même si le chemin est encore long, la numérisation coûte cher et l'Europe a beaucoup de retard à rattraper. Bohdana Stoklasová de la Bibliothèque nationale tchèque est chargée des relations avec les bibliothèques étrangères.
Česká republika je určitě na špičce digitalizace, pokud se týká.
La République tchèque est à la pointe de la numérisation en ce qui concerne la technologie, parce que nous avons commencé tôt au début des années 90 et que nous avons pu acquérir une certaine expérience. Mais pour ce qui est du rythme de la numérisation des documents, là c'est une question d'argent et nous en manquons ici comme ailleurs. L'Europe a beaucoup à faire pour rattraper son retard par rapport à d'autres régions du monde. Juste pour vous donner un exemple, le nombre de documents numérisés dans l'ensemble des pays européen est inférieur au nombre de documents numérisés dans la seule Corée du Sud.
Et pour rattraper ce retard, l'Union européenne a mis en place un projet pour la diffusion en ligne des collections numérisées. Un projet nommé Michael Plus que la République tchèque vient d'intégrer et qui sera partiellement financé par Bruxelles. Nathanaël Dupré-Latour est consultant pour Devotim, une société française chargée de la partie technique du projet par le ministère tchèque de la Culture.
Ce sont deux portails, à vrai dire. Un portail par État membre, donc nous serons en charge de l'administration du portail tchèque, et un portail européen, géré donc par le coordinateur italien du projet. L'enjeu étant d'abord de rassembler toutes les collections numérisées, tous les produits numérisés, en République tchèque et donner accès aux internautes tchèques et étrangers, puisque le portail sera bilingue tchèque et anglais, sur un portail national, puis ensuite, via ce qu'on appelle un processus de moissonnage, de faire passer ces données recueillies en tchèque sur le portail européen. Elles seront par la suite accessibles à partir de n'importe quelle des langues présentes dans Michael.
Alors est-ce qu'on peut résumer à l'avenir, donc je ne sais pas quelle est l'échéance prévue, on va parler des prochaines étapes tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça va signifier pour l'utilisateur concrètement ?
Concrètement, l'utilisateur de Michael Plus demain pourra, s'il fait une recherche, par exemple sur l'art roman, avoir accès à des bâtiments photographiés ou des ouvrages sur l'art roman numérisés, à la fois en Angleterre, en France, en République tchèque, pour nos fameuses rotondes, et qui lui seront accessibles à partir du simple portail Michael Plus. C'est un exemple, il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. Les utilisations peuvent être scientifiques, elles peuvent être touristiques, programmer un, programmer un voyage en Europe, par exemple, à partir d'un centre d'intérêt, à partir d'une thématique, et voir dans une région ou dans un ensemble de pays quels sont les endroits où on peut trouver les collections que l'on recherche.
Quelles sont maintenant les prochaines étapes ?
Nous allons mettre les bouchées doubles sur ce qu'on appelle la production. La production, c'est le catalogage des données, rentrer dans une application, la description de toutes les collections qui sont susceptibles d'intéresser les internautes qui fréquentent Michael+. Ce processus sur les données existantes va prendre au moins 6 mois. Nous espérons beaucoup être en mesure à la fin de l'automne, au début de l'hiver, de passer à la seconde étape qui sera la publication de ces données. La publication donc sur l'instance nationale, ce qui signifiera que les internautes tchèques auront déjà accès à ce portail, sachant que l'objectif ultime est que les internautes européens puissent avoir accès au portail Michael+ européen, mais cela, c'est une autre histoire qui ne concerne pas que le partenaire tchèque.
Alors les coûts engendrés, est-ce qu'on peut juste dire s'ils sont partagés par le ministère de la Culture tchèque et l'Union européenne, quelle proportion, si on a à peu près une idée à l'heure actuelle ?
Alors chacun des États s'engage sur un processus de numérisation qui lui permet d'avoir accès à, disons, une subvention de l'Union européenne dans le cadre du programme ITEN. Ce qui signifie que la République tchèque s'est engagée sur un programme de numérisation de 3 millions d'euros, ce qui lui donne droit à une subvention de 10% de ce montant, 300 000 euros pour la mise en œuvre de Michael+, pour la mise en œuvre technique de ce portail.
Les sources de financement restent évidemment une question clé du défi que représente la numérisation du patrimoine culturel, mais les Tchèques sont conscients de l'importance de l'enjeu, surtout depuis les dégâts provoqués dans les archives pendant les inondations catastrophiques en 2002 à Prague.
Notre émission en langue française est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10